three, four. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur le podcast Dieu et nous, un podcast qui t'aide à être plus dévotionnel et donc plus heureux dans la vie. Moi c'est Cyril Vorer ou Chandra et Georges Thierry ou Govardhan. Et aujourd'hui, épisode numéro 2, on parle de la
réincarnation.
La semaine dernière on a parlé du karma et donc on peut pas vraiment...
On était parti sur la réincarnation, oui. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur la réincarnation ? On peut commencer à dire que contrairement à une conception judéo-chrétienne où la vie est une épreuve à l'issue de laquelle soit on connaît l'enfer ou le purgatoire ou le paradis, c'est plus complexe d'après les philosophies orientales où l'âme qui est distincte du corps peut avoir un corps... à l'issue un nouveau corps à l'issue
de la mort.
C'est ça, ouais.
Mais cette question du purgatoire, je trouve ça intéressant. Je sais pas si je t'ai dit, mais j'ai un pote qui est prêtre. Il est prêtre orthodoxe grec. C'est un Américain de l'État de Ohio. Mais quand il avait 17 ans, il a pas grandi dans une famille chrétienne. Et à 17 ans, il a joint en tant que moine l'ashram Hare Krishna à la Nouvelle Vrindavan dans la Virginie de l'Ouest. Il a passé 2-3 ans là-bas et il y a eu quelques scandales, quelques trucs pas très jolis qui se sont passés là-bas. Donc du coup, il a dit je laisse tomber, c'est pas pour moi. Il est devenu prêtre, quoi. Il est devenu prêtre orthodoxe. Mais et ça fait quoi ? Ça va faire 30 ans, quoi. Mais il pratique toujours le Bhakti Yoga. Il pratique toujours le Vaishnavisme comme nous. Au fait, si vous êtes là pour la première fois, Georges et moi, on se base principalement on essaie de parler de manière universelle sur des sujets. Universel de théologie, de pratique de tous les jours, mais notre autorité, scripturaire, c'est plus les Védas, les textes de philosophie yogique, en particulier la Bhagavad Gita, les Puranas, etc. quoi. On fait souvent référence à ça. Mais donc tout ça pour dire, excuse-moi, mais tu parlais du purgatoire, et donc ce pote qui s'appelle Joseph, il m'a dit qu'il y a certains courants chrétiens, en tout cas dans le monde orthodoxe, qui considèrent, tu vois, le purgatoire un peu comme nous, on considérerait la réincarnation, c'est-à-dire cette notion d'enfer éternel ou de paradis éternel, surtout d'enfer éternel, c'est-à-dire tu as une chance et après si tu loupes ta chance, tu vas en enfer éternellement. C'est pas un truc qui est accepté par eux, en tout cas.
C'est pas très miséricordieux, on va dire, mais oui.
Ouais, c'est vrai que c'est pas miséricordieux, moi j'aime pas cette idée. Hein.
Non, j'aime pas non plus l'idée d'un enfer éternel. Je crois qu'on va sur les planètes infernales qui sont décrites dans le cinquième champ du Bhagavatam, le temps de payer pour ses fautes, en fait.
Simplement. Mais après, on a une nouvelle chance, quoi.
Et après, on a une nouvelle chance, oui.
C'est-à-dire, on se réincarne dans une forme humaine. Une fois qu'on a la forme humaine, là, on a vraiment un libre arbitre très, 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 très épanoui, très large. Et selon ce qu'on fait dans cette vie, on peut rechuter après la mort, tu veux dire, donc dans un corps qui n'est même pas sur cette planète-ci, mais qui est sur une planète inférieure au niveau cosmologie à la planète Terre.
Alors, ce qu'on pourrait expliquer, Cyril, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est qu'il y a 14 systèmes planétaires d'après le Srimad Bhagavatam, en fait, où donc il y a des plans plus élevés, en fait, et puis qui sont plutôt sur un plan subtil, en fait, au niveau du corps, et des plans plus inférieurs, où on est plutôt sur un plan grossier, en fait. Et nous, on est la septième planète, donc on est un plan intermédiaire, en fait, où on a un corps grossier et subtil, en fait. Et donc il y a 14 systèmes planétaires dans cet univers, et en fonction de nos actions, on va sur tel ou tel plan, soit pour payer, soit pour prendre le bénéfice de nos actions vertueuses.
Ça rappelle au truc du karma de la semaine dernière, quoi.
Ça rappelle le truc du karma de la semaine dernière, bien sûr. Mais c'est important de savoir qu'il y a différents plans d'existence où où on souffre plus ou moins, où on a plus ou moins de bonheur, dans cet univers matériel, en fait, qui est distinct du monde spirituel.
Ça me rappelle tout le corps de littérature. Enfin, là, je fais un anglicisme. En anglais, on dit « a body of literature ». Toi qui es expert en sciences bibliothécaires, comment est-ce qu'on dit « a body of literature » ? Un corpus de littérature ?
Oui.
Ah ouais, donc tu sais, les UFO, qu'est-ce que tu en penses ? Toutes les études sur les extraterrestres, ça ramène à cette notion qu'il y a de la vie sur d'autres planètes dans l'univers, quoi, pas seulement sur planète Terre.
Parce que ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a visiblement, si les planètes les plus élevées ont un corps subtil et donc pas perceptible par l'œil grossier, en fait, on peut peut-être pas voir ces êtres-là, mais peut-être les entités infernales qui ont des corps grossiers.
C'est intéressant.
En tout cas, il y a des formes de vie qui existent, qui ne sont pas forcément perceptibles par l'œil grossier.
Par l'œil nu. Et le plus subtil ils sont, le plus pieux ils sont donc, et le plus il est difficile pour des êtres comme nous, qui sont, disons, dans le système planétaire, soi-disant, hein, intermédiaires, à percevoir. Par contre, des êtres qui sont dans des systèmes planétaires plus, comme tu dis, plus grossiers, ils sont visibles à nos yeux. Et je trouve que ce n'est pas une coïncidence que quand tu regardes les films de Hollywood, les livres de science-fiction et tout, très souvent, les extraterrestres, c'est plus des extraterrestres méchants, grossiers, qui sont dépeints, quoi. Mais la littérature védique parle aussi d'extraterrestres, entre guillemets, qui sont beaucoup plus beaux que nous, qui sont beaucoup plus vertueux que nous, qui vivent beaucoup plus longtemps que nous.
Les Gandharvas et tous ces êtres qui sont aussi présents dans la littérature judéo-chrétienne, en fait.
Les dieux et les déesses du panthéon grec, quoi. Pas vrai ?
Les archanges et les anges, par exemple, tout
simplement. Les archanges et les anges, ouais. Trop cool.
Qui sont des êtres qui existent sur le plan subtil et qui sont pas visibles sur un plan grossier, mais qu'on peut percevoir si le filtre de la vision est suffisamment éclairé, quoi, d'une certaine façon.
Et des êtres qui sont bien sûr, enfin, je dis bien sûr parce que c'est un fait accompli, malheureusement, qui sont éliminés ou minimisés ou marginalisés de la rhétorique de la science, de la rhétorique de la science moderne, quoi.
Non, parce que dans la science moderne, on croit que ce qu'on voit, donc c'est un peu compliqué. Ça veut dire qu'on donne un maximum de crédit à nos sens qui sont déjà limités, en fait.
Mais même les trucs de UFO, d'ailleurs, il y a qui disait, là, juste là récemment, Trump, bon, on va pas rentrer dans les politiques, mais apparemment, il y a 30 jours, l'administration d'aujourd'hui aux États-Unis a donné un ordre à ce que dans 30 jours, tout ce qui est information classifiée sur les UFO soit rendu visible au public.
Parce que j'ai vu certaines fuites de gens haut placés dans le renseignement qui disent qu'il y aura effectivement des formes de vie extraterrestres, ce qui ne nous surprend pas, parce que nous, dans le Bhagavad Gita, il y a des choses qui nous sont données, en fait.
Mais en revenant à la réincarnation, alors, parce qu'au début,
à la réincarnation.
Et encore une fois, si je peux, enfin, pas encore, mais s'il te plaît, si tu peux vraiment peut-être tenir ton micro près de ta bouche ou un truc comme ça, je crois, parce que pour l'auditeur, ça serait vraiment, tu vois, par exemple, moi, je suis juste à côté de mon micro comme ça, et j'imagine que, à l'enregistrement, la qualité sera
un peu mieux.
Ah ouais, bon. Là, par exemple, là, je t'entends mille fois mieux.
D'accord. Alors, pour revenir à la réincarnation, ce qu'il faut dire, c'est que dans la Bhagavad Gita, il y a des choses qui sont décrites. Par exemple, quelqu'un qui quitte ce monde dans le mode de l'ignorance, avec l'intoxication, l'alcool ou des choses comme ça, il va se réincarner dans le monde animal, en fait.
Mais là, il faudrait que tu unpack la notion de mode. Et tu as vite fait, tu as cité la Bhagavad Gita, comme je l'ai dit au début, hein, c'est le livre...
Dans la Bhagavad Gita, il y a trois modes d'action de la nature, en fait, qui sont le tamas, l'ignorance, le rajas, la passion. Et le sattva, la vertu, en fait. Et on est plus ou moins, il y a plus ou moins un mélange de ces trois modes, en fait, qui génère la nature matérielle, en fait. Et lorsqu'on quitte ce monde dans le mode de l'ignorance...
C'est-à-dire quand nous, en tant qu'âme, on meurt et on quitte ce corps matériel.
Voilà, et si on est imprégné, on est plutôt dans le mode de l'ignorance, là, on rejoint le monde animal d'après la Bhagavad Gita.
Souvent, il y a cette question, est-ce qu'on peut se réincarner en animal, hein, pas vrai? Il y a cette question souvent.
Si on part dans la passion, on peut se réincarner dans le monde humain, en fait, dans la société.
On continue, rebolote dans un corps humain.
Dans la vertu, on peut rejoindre les plans supérieurs, les plus subtils dont on parlait avant, en fait. Et ça, c'est un peu primordial, en fait.
Et après, donc, finalement, t'as le dernier point, c'est sortir une fois pour toutes du cycle de la réincarnation, une fois pour toutes, quoi. Et là, c'est au-delà même de la vertu ou de la passion ou de l'ignorance, pas vrai?
En fait, l'univers matériel, c'est un univers de souffrance, en fait. Il faut dire ce qu'il est. Et tant qu'on n'a pas réalisé notre vraie nature en tant qu'âme et notre lien avec la personne suprême, Dieu, on est amené à errer dans ce monde... de façon erratique, en fonction de nos désirs, à s'associer à certains jivas, certaines âmes, et se retrouver toujours réincarné dans les mêmes familles. Alors que quand on comprend la nature transcendantale de l'âme et notre lien à Dieu, qui est un lien de service et d'amitié, ou de... enfin, y a différentes...
avec l'amour, comme
la façon d'être relié à Dieu, qui avec toujours l'amour comme pivot. Et là, on peut se libérer de cet univers matériel qui est un univers dans lequel on est depuis peut-être des millions et des milliards d'années, et et qui nous apporte que de la souffrance avec un peu de plaisir, un petit peu de souffrance. Et voilà, en fait.
Quand j'avais 20 ans, quand j'ai découvert la notion de la réincarnation selon la Bhagavad Gita, parce qu'avant, j'avais lu un petit peu le bouddhisme et... Ce serait bien peut-être un jour d'inviter un intervenant bouddhiste, parce que leur notion, surtout les bouddhistes zen, de la réincarnation, je trouve ça, avec tout respect, assez bizarre, parce qu'il n'y a pas de notion d'être distinct qui se réincarne. Mais je me rappelle, quand j'ai commencé à croire la réincarnation, je me sentais tellement soulagé, genre je me disais, waouh, mais quel soulagement! Après la mort, je continue à vivre, quoi, et je me réincarne. Et au début, c'était du style, waouh, la réincarnation, c'est une super bonne nouvelle, quoi. Et après, j'ai lu, bah non, dans la Bhagavad Gita, Dieu ou Krishna dit que, en fait, c'est une punition, cette réincarnation. C'est une imposition artificielle sur l'âme, quoi.
Mm-hmm. Mais oui, c'est ça, parce que, en fait, c'est rassurant de se dire qu'on est éternel, en fait, par nature, en tant qu'âme. Mais c'est pas rassurant de se dire qu'on va se réincarner dans des formes plus ou moins difficiles, dans des contextes plus ou moins difficiles et tout ça.
Mais souvent, je rencontre des gens qui disent « Ouais, non, mais moi, par exemple, ma mère. » Je te donne un exemple. Ma mère, une fois, parce que je lui disais « Maman » et tout, j'essayais de la convaincre sur le Bhakti Yoga, sur les enseignements de la Bhagavad Gita et tout. Et elle, un jour, elle me sort « Ouais, mais en fait, c'est fiston. » Enfin, je sais pas, elle m'a pas appelé fiston, mais ma mère, elle m'appelait Poupie. Bref, elle m'a dit, tu sais, en fait, moi, j'ai envie de me réincarner. Et je lui dis, quoi? T'as envie de te réincarner? Mais attends, mais non, ce monde, Krishna dit dans la Bhagavad Gita, c'est un monde de souffrance et tout. Elle dit, ouais, je sais, mais j'ai envie de me réincarner. Et je lui dis, mais t'as envie de te réincarner en quoi? Et elle a dit, j'ai envie de me réincarner en chef d'orchestre.
Et oui, c'est parce que tant qu'on a des désirs dans ce monde, on est amené à revenir dans ce monde, malheureusement. Alors qu'on ne sait pas que dans le monde spirituel, on a tout en beaucoup mieux, en fait, sans souffrance, de l'éternelle félicité. Parce que la nature de l'âme, il faut dire qu'elle est Satchitananda, être, conscience, béatitude, en fait. Et c'est notre réelle nature.
Être.
Et ce monde est imparfait.
Ananda. Béatitude, tu trouves que ça se traduit bien? Ananda, ça se traduit en... C'est pas plus joie ou félicité?
Félicité ou béatitude, enfin...
Parce que béatitude, c'est un peu un truc passif, non? Où t'es là et tu baignes dans une certaine joie, mais c'est assez passif, non?
Non, c'est ça, mais oui, non. Oui, c'est la félicité, quoi, on va dire.
Ouais, l'âme n'a pas de l'âme dans son selon le texte qu'on suit n'a pas de vieillesse et l'âme a carrément et ça c'est un truc que je trouve vachement intéressant. Est-ce qu'on peut parler un peu de ça, cette notion de swaroop comme on dit en sanskrit, cette notion d'âme, de forme ontologique éternelle de l'âme.
Spirituel en fait. Parce que
un corps spirituel, exact.
On a
ça, c'est génial comme concept.
Éternel, en fait. Et c'est-à-dire que quand on réalise la vraie nature de l'âme, on peut réintégrer sa swaroop originelle, qui est la forme éternelle, enfin notre corps éternel, en fait, qui est la swaroop, effectivement.
Il y a des poèmes écrits par des saints dans notre tradition, comme tu connais, style Narottam Das Thakur ou Bhaktivinoda Thakur ou Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, qui ont écrit dans leurs écrits. Alors là, c'est génial, c'est des mecs, c'est des âmes, à première vue, ce sont des hommes, des êtres humains, hommes qui ont un corps physique d'humain masculin, hein. Mais ils écrivent dans leur poème, dans leur réalisation, disons, intime d'union avec Dieu, et ils décrivent carrément qui ils sont en tant qu'âme dans le royaume de Dieu. Et ils se décrivent eux-mêmes comme étant, par exemple,
des
femmes. Ouais, parce que par définition, on apprend que chaque âme est féminine en général, quoi. Un genre féminin. Mais après, tu as carrément des âmes qui ont des corps masculins ou féminins. Et même les corps masculins, en fait, sont féminins parce qu'ils sont... parce qu'il n'y a qu'un seul... Purusha, comme on dit en sanskrit, hein, enjoyer, c'est Dieu, et toutes les autres âmes sont faites pour être enjoyed by, hein, Dieu. Mais c'est ce que je trouve génial, c'est que tu as un vieux monsieur, style 60 ans ou 70 ans, qui écrit je en tant qu'âme, j'ai 14 ans, j'ai une jupe de couleur jaune, j'aide telle et telle âme libérée dans le monde spirituel qui a son nom spécifique à cueillir des fleurs pour les amener à Dieu. Hein?
Oui, tout à fait. Oui. C'est toujours un peu surprenant parce que souvent, c'est ça, ils ont des grandes barbes. Ou...
Exact. Hein. Ils ont des grosses barbes et tout, mais ils se voient eux-mêmes comme... comme Sainte Thérèse d'Avila, tu sais. Alors elle avait un corps de femme, d'accord, mais c'était un peu la même chose. Je suis pas du tout expert dans la théologie. Comment est-ce qu'on appelle ça en français? Bridal theology. Bridal, a bride, tu sais, a bride and groom, la nouvelle épouse, a bride.
Oui.
Bridal, ça se dirait. Comment tu traduirais ça?
La vierge, quoi, en fait.
Bah, bridal, c'est pas nécessairement une vierge, c'est juste l'épouse, quoi.
Oui, d'accord.
Il y a ce concept de théologie bridal. Alors, bride, en anglais, en français, ça se dirait... attends, je te dis ça juste parce que c'est quand même intéressant. On est dessus. La mariée, quoi, la jeune mariée. Donc, il y a une théologie de jeune mariée qu'on retrouve par exemple dans Sainte Thérèse d'Avila, où elle prie au Christ comme son amant, quoi. Elle rentre dans l'humeur de son amant.
Et on retrouve... Ça, c'est les vrais mystiques, ils rétablissent le lien à Dieu, c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça qu'on peut avoir différents types de relations avec Dieu, y compris un Dieu de... Enfin, une relation de à mon maîtresse, quoi, en fait, tout simplement.
C'est au-delà de la réincarnation. Là, c'est quand la réincarnation s'est terminée, on est d'accord.
Ça, c'est la nature éternelle de l'âme, en fait.
Au-delà du samsara, quoi.
Oui, bien sûr. Oui.
Le samsara, pour ceux qui ne savent pas, c'est le mot technique que les bouddhistes, d'ailleurs, ont emprunté pour vouloir dire ce cycle de naissance et des morts, quoi, le cycle de la réincarnation.
C'est-à-dire que voilà, une fois qu'on a extrêmement souffert en ce monde, qu'on veut à tout prix sortir, en général, on fait tous les efforts pour pouvoir réintégrer sa place dans le monde spirituel, en fait, qui est notre
demeure originelle.
Ce qui est important de savoir aussi, c'est que en général, quand on descend dans cet univers matériel, par désir de rayonner par soi-même, d'être, de se sentir un petit dieu ou quelque chose comme ça, on doit passer par toutes les formes de vie qui existent. C'est, je relisais la Sri Upanishad, tu sais, qui est...
Le petit texte de 12 versets, un truc...
De 12 versets, c'est ça. Enfin, de 12 mantras, d'ailleurs.
12 mantras, ouais.
Oui. Et je crois que oui, c'est ça. On doit passer par toutes les formes de vie avant d'avoir une incarnation humaine qui, elle seule, permet de réaliser son lien à Dieu.
J'ai appris que la première incarnation, c'est celle du démiurge de l'univers, quoi. C'est celle de celui qui se fait le poste, le corps, ou le poste de Brahma, qui est...
Brahma. Ça, je ne sais pas quoi en penser. Oui, je sais qu'on passe tous par le poste de Brahma à un moment où... c'est des choses qui nous échappent un peu. On a des textes, mais on...
Il y a un ami, il n'est pas très très proche, mais il est né dans une famille de Vaishnava ou de dévots de Krishna, un Américain. Il est assez connu dans le petit monde de la musique dévotionnelle sanskrite. Il s'appelle Gauravani. Aux États-Unis, il fait tourner de studios de yoga. Et je me rappelle quand je vivais dans un ashram à Los Angeles en tant que moine, il a passé quelques mois là-bas aussi avant de se marier, avant de fonder sa famille à Washington DC. Et je me rappelle une fois, on parlait comme ça et il a dit un truc, ça m'a vraiment choqué. Il a dit, imagine, en fait, tu es dans le monde spirituel, tu es avec Dieu. Enfin, dans la compagnie, tu es au monde spirituel, tu es dans le royaume de Dieu et tu marches comme ça, et dans ta forme, dans ta swaroop, dans ta forme originelle, et tu es en train de marcher et tu vois une fleur. Et tu dis, waouh, cette fleur, elle serait vraiment belle sur le turban de Krishna. Et donc tu la prends et tu dis, tiens, elle serait vraiment belle sur la tête de. Sur la chevelure de Dieu, et juste à ce moment-là, tu dis, ouais, mais en fait, elle serait encore plus belle sur ma propre chevelure. Mmh. Et juste quand tu penses ça, boum, tu te retrouves dans un corps de Brahma, boum, tu te retrouves dans un corps de Dieu inférieur, tu te retrouves dans la forme humaine, tu redescends à un corps de, je sais pas, de vache, de singe, nain, tu redescends vers un insecte, vers un poisson, tu redescends jusqu'au petit microbe et tout, et après tu remontes, insecte, poisson, plante, etc. Finalement, tu arrives à la forme humaine, et là, tu rencontres des spiritualistes. Tu pratiques, par exemple, dans notre cas, tu chantes Hare Krishna, tu meurs, et là, tu te retrouves dans la même position, avec la fleur dans ta main, dans ta forme originelle, et tu dis, ouais, mais en fait, non, je crois qu'elle serait mieux sur la chevelure de Dieu.
Après tout ça.
Après tout ça.
Non, ce qui est important de souligner, c'est qu'on est quand même dans deux voies sensiblement différentes, donc la tienne, on peut descendre du monde spirituel et se retrouver dans cet univers matériel. Les acharyas plutôt de ma tendance, ils auraient plutôt tendance à dire qu'on vient à l'origine de la rivière Viraja.
Et d'une sorte de région...
À un moment donné, soit le...
Marginal.
Une région un peu marginale. Et on prend à un moment soit le chemin du monde spirituel.
Mais moi, j'ai pris, comment on dit en anglais, I took a cue, parce que tu m'as dit, c'est toi qui as dit, on se retourner, tu as utilisé le mot rétablir ou retourner au monde spirituel, donc je me dis, bon, bah, ok, allez, on roule avec, quoi. Mais bon, pour nos lecteurs, ça c'est assez intéressant. Il y a, comme par exemple dans le monde du christianisme, tu as des débats sur par exemple l'hostie, là, le petit bout de pain, est-ce que c'est symbolique ou est-ce que c'est carrément un truc qui est transmuté et c'est carrément le corps du Christ ou est-ce que c'est juste symbolique? Il y a des débats depuis des siècles sur des sujets comme ça. Eh ben, dans la même manière, dans le monde du Bhakti Yoga, tu as certains groupes qui disent que l'âme chute du royaume le plus intime de Dieu, d'une relation des plus intimes avec Dieu et chute donc dans ce cycle des réincarnations par son bon libre arbitre. Et un autre groupe qui dit, bah non, en fait, l'âme n'a jamais été dans le royaume de Dieu et elle y va, quoi, pour la première fois, quoi.
Ça, c'est des différences, oui, c'est... Il peut y avoir différents cas de figure aussi, hein, probablement.
D'autres, plus que ces deux-là, tu crois ?
Non, mais enfin, je veux dire, en fonction du cas de figure, on peut être dans telle ou telle, de telle ou telle origine.
Après, le truc où on est vraiment d'accord, c'est que ce qui est absolument sûr, c'est qu'on est dans ces corps. Et que bon, si la réincarnation c'est un fait, on est en plein dedans là, on est en plein dans ce cycle des réincarnations. Là, il y a le temps qui nous pousse vers ben, en fait vers la vieillesse, vers la maladie, vers la mort. Et je crois que c'est un truc qui est important que nos lecteurs écoutent quoi. C'est qu'il faut sortir, qu'il faut faire en sorte de sortir de ce cycle de naissance et des morts quoi. C'est ça le but.
Le problème, c'est ça, c'est ce qu'on disait, c'est que si au moment de la mort, on se disait, bah, tiens, j'aurais bien fait médecine, on risque d'avoir une prochaine incarnation où on sera dans un milieu où on a une chance de faire des études de médecine parce que Dieu est miséricordieux et qu'il nous accorde nos désirs.
Nos souhaits, quoi. Ah bon, tu veux revenir, tu veux vraiment devenir un docteur, tu veux pas être avec moi dans mon royaume. Bon, bah vas-y, rebolote, quoi. Reprends naissance et. Mais après, bon, on a des désirs, mais si on n'a pas la piété, il y a du crédit, quoi. Il y a du crédit karmique dont on a besoin pour avoir tel et tel désir exaucé. Il ne faut pas oublier ça non plus, parce que...
Oui, bien sûr. Ben, en fonction, on parlait du karma, mais en fait, au moment de la mort, je relisais les mantras de la Sri Isopanishad, et il dit que le corps subtil, donc, qui est fait de mental, d'intelligence et de faux ego, en fait, il emporte l'âme avec son karma vers la prochaine destination, en fait.
Vers le prochain corps.
Nous, dans notre voie, Cyril, on peut le dire, en fait, au moment de la mort, on va sur la planète Pluton pour être jugé par Yamaraj, le Deva de la mort, qui, en fonction de nos karmas, nous attribue une prochaine naissance. Ouais. On peut accepter ou non, en fait. C'est-à-dire que si...
Qu'on peut accepter ou non. Non, je ne crois pas qu'on peut accepter. Je veux dire, une fois qu'on a...
Je crois qu'il y a quand même... Je me demande s'il n'y a quand même pas une...
Bah non, sinon... Parce que si, imagine, tu as fait plein de conneries dans ta vie et donc, normalement, tu dois te retrouver dans un corps de, je sais pas, de cochon et tu as Yamaraj qui dit, bah ouais, voilà, j'ai fait l'addition, là, et mon pote, c'est dans ta vie prochaine, quoi. Et bah, qui avec le choix dirait, bah ouais, d'accord, je veux bien.
En général, quand tu as une incarnation de cochon dans ta prochaine vie, en général, t'es tellement dans l'ignorance que t'es pas en mesure de capter vraiment ce qui va t'arriver.
Ouais, alors, tu vois, tu peux même...
Je pense que c'est surtout ça, quoi, en fait. Mais, enfin, il y a une espèce de contrat d'âme, en fait, pour la prochaine incarnation, en fait, et effectivement...
Alors, comment est-ce qu'on peut en sortir, là? Parce que là, peut-être qu'on peut arriver vers la fin de... Enfin, vers la dernière, disons, section de notre conversation. Qu'est-ce que... Quel est le principe universel
La vie matérielle...
Comment
À un moment, on est tellement dégoûté de cette vie matérielle qu'on souhaite connaître notre véritable identité, qui n'est pas celle du corps, Georges Thierry, 43 ans, en Bourgogne, ou Cyril Borer à Los Angeles, ou, tu vois, enfin, qui a rien à voir avec ça, et connaître notre nature éternelle, et vouloir rejoindre le monde spirituel d'éternelle félicité.
T'as dit retourner, tu vois, t'as dit rejoindre, là, attention, là.
Oui, parce que d'une certaine façon, ou on est dans les marges du monde spirituel, ou on est dans le monde spirituel.
Excuse-moi, je te taquine.
voilà.
Et donc, il y a cette notion, cet aphorisme connu, Atato Brahma Jigyasa, dans le premier verset du Vedanta Sutra, qui dit Atato Brahma Jigyasa. Atato, ça veut dire désormais. Ça veut dire désormais. Et donc, on peut se poser la question, mais attends, comment est-ce que tu commences un bouquin avec le mot « désormais » ? Parce que « désormais », ça implique quelque chose avant, pas vrai ? Et donc, qu'est-ce que ça implique ? Bah, les commentateurs dans notre tradition disent que ce mot « atato » ou « désormais » veut dire que voilà, maintenant que toi, en tant qu'âme, tu as un corps humain et tu l'as reçu après des millions, comme tu as dit, des millions et des millions et des millions d'incarnations dans ce cycle des naissances et des morts, tantôt cochon, tantôt poisson, tantôt plante. Maintenant que tu as une forme humaine, Brahma Jigyasa. Brahma veut dire l'esprit, Dieu, le divin. Jigyasa, s'enquérir auprès d'eux.
C'est-à-dire non, en tire-toi de la vérité, oui, tout à fait, oui, c'est ça.
En tire-toi après de la vérité, quoi.
Non, exactement, c'est notre devoir, en fait. Notre devoir est de s'enquérir de la vérité, tout à
fait. Et c'est un peu, t'as Platon qui dit connais-toi. C'est un peu la même chose, quoi. C'est intéressant, quoi.
Si on s'inquiète juste de trouver du travail, de fonder une famille, tout ça, on reste sur un plan animal, en fait. Parce que,
après, on peut aller à l'autre extrême et dire bah non, je ne vais pas fonder de ma famille, je ne vais pas travailler. Et ça ce n'est pas nécessairement le truc à faire non plus, quoi. L'idée, c'est de s'enquérir, devenir spirituel, qu'on rejette le monde ou qu'on vive dedans, quoi.
Mais subvenir à ses besoins tout en s'enquérant de la vérité éternelle. En fait.
Et pratiquement parlant, s'enquérir, c'est bien joli, mais en tant que bhakti yogi, hein, toi et moi, on a tous les deux, par exemple, une pratique quotidienne, pas seulement de se dire bah, « c'est quoi alors la vérité absolue ?» C'est quoi ? Et on passe toute la journée ou 2 heures par jour à… On a accepté la version de la Bhagavad Gita. On a accepté ce que la Bhagavad Gita dit, notamment que,
qu'il y a un Dieu… une certaine garantie de… Enfin, on n'est jamais assuré de… Mais on a des chances de moins souffrir d'une certaine façon, quoi.
Et ce que je veux dire, c'est qu'on a accepté qu'il y a un Dieu. On croit d'ailleurs que Krishna, c'est Dieu. Et non seulement ça, on est d'accord d'avoir une certaine pratique quotidienne qu'on appelle une sadhana. C'est pour ça que tous les jours, nous, on passe X heures par jour.
Quelques heures le matin à rester.
À réciter en particulier le mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Je ne sais pas, toi tu utilises un chapelet, moi j'utilise un petit truc digital comme ça pour compter le nombre de fois que je récite les noms de Dieu. Et l'idée, c'est qu'en récitant des noms de Dieu de manière quotidienne, ces noms mêmes qui sont donc considérés comme étant complètement spirituels, complètement tout-puissants comme Dieu l'est, l'avatar sonique de Dieu sous sa forme de son saint nom, hein, en restant connecté à son saint nom de manière quotidienne, on garde notre conscience purifiée dans un état de transcendance malgré nos devoirs quotidiens, notre travail, notre carrière, notre famille, etc.
Sous condition que les mantras soient récités vraiment de façon consciente, ce qui n'est pas toujours mon cas, hein. Je veux dire, le matin, des fois, je le fais…
C'est mieux que rien. Oh, c'est mieux que rien parce que après.
C'est mieux que rien, mais c'est toujours essayer de progresser dans la diction du mantra et dans la reliance quand on le dit, parce qu'effectivement ce mantra que tu as cité, en fait, il est avatar, quoi, d'une certaine façon. Donc il est Dieu lui-même, en fait, ouais. Ce qui nous permet de nous purifier de beaucoup de choses, effectivement.
Là tu fais référence à un verset du Chaitanya Charitamrita. Un texte donc plus récent dans notre tradition du XVIe siècle qui dit « Kali Kali Namarupe Krishna Avatar ». Kali Kali, donc dans l'âge de Kali, Kali Kali Namarupe, la forme du nom, Kali Kali Namarupe Krishna Avatar, c'est l'avatar de Krishna, c'est l'avatar de Dieu, quoi.
C'est ça. On pourrait faire d'ailleurs une discussion sur Chaitanya.
Sur le saint nom. Ah, sur Chaitanya.
Ce serait bien de…
Ah ouais. Peut-être dans le prochain épisode, on va faire un interview avec Maxime de la chaîne Sadhana TV, un spiritualiste. Je ne sais pas s'il est dans la même tradition que nous, mais en tout cas, il est tout à fait dans la tradition védique en général, quoi. Donc, je crois qu'on aura une bonne conversation avec lui. Et celle d'après, je suis d'accord avec toi, c'est une super idée de parler de… introduire nos lecteurs à la figure de Chaitanya, de Chaitanya Mahaprabhu.
Alors pour conclure, Cyril, je ne sais pas ce que tu en penses, il doit être…
Je voulais parler des enfants qui se souviennent de leur vie passée, l'aspect, disons, scientifique de la réincarnation. Mais qu'est-ce que tu voulais dire ?
Oui, on peut parler des enfants, parce qu'en principe, dans cet âge, nos incarnations précédentes sont voilées, ce qui fait qu'on ne s'en souvient pas, mais oui, il y a des gens qui ont la mise à l'écorde de pouvoir se souvenir de leurs incarnations antérieures, quoi. Oui, on peut le dire.
Moi, je trouve que c'est vachement important, ça, pour en tout cas pour moi, par exemple, pour quelqu'un qui n'a pas une foi implicite dans ce que la Bhagavad... Parce que dans la Bhagavad Gita, encore une fois, comme on le cite, Krishna au moins deux ou trois fois, parle de la réincarnation. Hein, changer de corps, comme on change de chemise, tout comme une âme va de l'enfance à la vieillesse, à la mort, bah, l'âme retourne dans un autre corps après la mort. Il y a quand même pas mal d'analogies qui parlent explicitement de la réincarnation. Et j'y crois, mais j'ai des doutes. Et donc, quand je lis des livres ou quand je vois des vidéos sur la recherche qui a été faite de manière super rigoureuse là, depuis 50 ans, là, c'est du plus haut niveau, au niveau rigueur scientifique, de cas, des milliers carrément de cas d'enfants qui se souviennent, soi-disant, hein, de leur incarnation passée. Là, on peut, par exemple, si vous êtes intéressé, si vous écoutez, il y a les livres de Ian Stevenson, qui c'était un peu le parrain, il est mort il y a environ 10-15 ans, et maintenant il y a d'autres personnes dans la communauté scientifique qui continuent à dénicher d'autres cas et à poursuivre ses études. Et c'était un peu lui qui a commencé ce domaine de recherche sur des enfants qui se souviennent de détails d'une personnalité précédente qui est morte, et qui, ces détails correspondent exactement à des détails qui sont trouvés dans des annales des mairies du village dans lequel l'enfant disait où il vivait, ou alors il y a même carrément des cicatrices ou des trucs de naissance qui correspondent à, par exemple, l'enfant naît avec un petit truc noir ici, un petit truc noir là, et il dit dans ma vie passée, on m'a tiré une balle et, dans le cœur, quoi. Et donc, il y a presque une impression de l'entrée de la balle et de la sortie de la balle dans le nouveau corps, quoi. Et donc, ça, ces études-là, moi, je ne sais pas pour toi, Georges, mais moi, ça me...
J'ai une foi aveugle et je pense que c'est bon signe. Mais je n'ai pas besoin de preuves supplémentaires.
Ok. En fait. Moi, je n'ai pas besoin de preuves, mais ça m'aide. Oui, ça m'aide.
Je pense qu'il y a des choses qui peuvent effectivement venir corroborer, bien sûr. Il y a des gens qui se souviennent parfaitement de leurs incarnations précédentes.
Toi, tu t'en souviens de tes vies passées?
Et avec des détails. Non, aucun souvenir, non.
Moi aussi, non plus.
J'ai l'impression. Enfin, voilà.
Ok, bah, tu voulais dire un truc, parce qu'en fait je t'ai interrompu en disant
que je parlais des enfants. Pour conclure, on peut dire que tant qu'on ne cherche pas à connaître sa réelle identité, on ne peut pas regagner son corps spirituel éternel, et qu'on est amené à
errer dans ce
monde comme ça, enfin, sans...
À se réincarner.
En fonction des désirs, en fonction des choses... Et c'est un monde temporaire qui est... Cet univers matériel est un monde temporaire qui est recouvert par l'illusion, ce qui fait que... Enfin, c'est pas que c'est un rêve, mais ça s'apparente à un rêve, en fait.
Presque.
Et c'est pas notre éternel... presque, oui. Il faut, enfin, oui. Mais,
moi, je dirais que c'est pas notre éternel demeure, quoi.
Ouais. C'est pas notre éternel demeure et c'est pas notre éternel situation, en fait.
Et donc pour garder un point positif aussi, on peut ajouter que voilà, une fois, bon, maintenant on est dans ce monde, c'est pas qu'on le rejette ou on vit une vie déprimée, au contraire, on essaye de vivre de manière...
Oui, bien sûr.
En bon esprit, propre, essayer de notre mieux dans nos carrières, dans nos relations, etc., etc. Avec une pratique solide de connexion avec Dieu, entre autres, chanter les saints noms de Dieu de manière quotidienne, avec l'espoir que voilà, dans cette vie, Dieu reste le point central de notre vie, et qu'au moment de la mort, bon, bah, si Dieu veut, il nous extirpe de ce samsara, de ce cycle.
Tu as raison de préciser ça, parce que c'est toujours par la grâce de Dieu, par nos propres efforts, on ne peut rien faire.
Ouais.
Tu peux bien le souligner, effectivement. Oui. C'est important d'avoir une certaine humilité, effectivement.
Ok, génial. Bah, écoutez, on vous remercie tous de nous avoir écoutés.
Merci beaucoup.
Et à la semaine prochaine.
Bonne semaine.
Bye.
Bye.